Alors. Alors, peut-être peut-on faire un petit rappel sur la semaine dernière, sur tel ou tel point, si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aurait eu un point qui serait resté un peu obscur, quelque chose qui ne serait pas encore approprié. Juste, je vous signale que du coup, j'ai enregistré la semaine dernière, donc vous pouvez demander à Emmanuel Quéran, la secrétaire de la chapelle, l'enregistrement. Alors après, comme il est assez gros, je pense qu'en fait, on va le mettre sur le site internet. Ce sera plus simple. Mais enfin, pour le moment, c'est comme ça. C'est dans la boîte mail d'Emmanuel Quéran.
Merci.
Voilà. Malgré tout, je vais quand même faire un petit rappel donc, sur là où nous étions parvenus et sur finalement l'histoire un peu de l'arianisme. Alors, est-ce que quelqu'un peut aller dans le couloir signaler que la porte est ouverte? Parce que je crois que j'ai entendu sonner...
Oui, c'est bon.
Oui, mais là, à l'instant, je viens d'entendre sonner encore.
Oui, mais il faut le savoir.
Oui, c'est en cours. Alors, donc, petit rappel. Donc, l'arianisme émerge vers les années 300-310, on date souvent de 318, le début de l'arianisme, donc avec le prêtre Arius en Égypte, avec ce problème de pouvoir rendre compte de la Trinité, un mot qui n'existe pas encore à l'époque, justement, qui veut dire 3 et 1, parce que justement, l'enjeu, c'est d'arriver à ce que 3 égale 1. Donc, je vous ai dit un peu les différentes combinaisons auxquelles on pouvait essayer de parvenir. Celle de Darius, la proposition d'Arius, ça va être de dire, pour sauvegarder l'unicité de Dieu, ce qui lui semble très important, eh bien, c'est de donc insister sur la divinité du Père, mais de dire, bien, le Fils, eh bien, il y a un temps où le Verbe n'était pas. Il a été fait, il a été créé, et donc il n'est pas coéternel au Père. Voilà, avec ce souci de garder, s'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a que le Père qui est Dieu, et puis donc les autres sont moins Dieu. On ne se préoccupe pas tellement encore de l'Esprit-Saint à cette époque. Il se fixe notamment contre une hérésie qui avait déjà eu lieu à l'époque, qui est cette idée aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais du coup les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont seulement des visages en quelque sorte, ou des manifestations différentes de Dieu, une sorte d'hologramme si vous voulez, mais il n'y a qu'un seul Dieu, et donc les trois, ce qu'on appellera plus tard les trois personnes, n'ont pas vraiment de consistance. Donc ça c'était une hérésie contre justement laquelle Arius va vouloir s'ériger. Donc dès le commencement, l'évêque d'Arius en Égypte va le condamner. Ils vont faire un concile. Alors pas le commencement, ça va avoir le temps de fermenter un peu en Égypte, dans les régions voisines, etc. Mais il va être assez rapidement condamné. Comme entre-temps, donc Arius avait pu se faire des amis, ça va faire monter la crème. Et donc il va y avoir un concile au niveau œcuménique, premier concile œcuménique, c'est-à-dire universel, donc à Nicée en 325. Arius y est condamné et on parle du Père et du Fils comme consubstantiels. Avec cette idée qu'on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière ce mot, vous vous souvenez, avec cette idée d'unité, mais voilà. Et avec justement, en fait, les évêques qui se disent, en fait, on est retombé, en disant ça, on est tombé dans l'hérésie précédente, avec cette idée de trois visages, trois manifestations de Dieu. Voilà, ça s'appelle le sabellianisme. Trois personnes inconsistantes avec un seul Dieu, et donc ça ne va pas. Et donc on revient dessus, 335 Arius est réhabilité. Et l'arianisme va être triomphant pendant plusieurs dizaines d'années, notamment aussi à cause de questions politiques, à cause du soutien particulièrement des empereurs souvent d'Orient. Constantin va avoir un environnement assez arien, justement après le concile de Nicée, notamment Eusèbe de Césarée, on se souvient, c'est le grand historien de l'Église, et puis ses successeurs en Orient. En Occident, c'est un peu plus différent, il va y avoir une sorte de neutralité, ou parfois même du soutien à Nicée. Les causes politiques vont donc être très importantes parce que c'est eux qui ont une grande influence sur aussi la déposition des évêques, sur les jeux de réseau, etc., qui vont faire que la plupart des évêques eux-mêmes vont être ariens, assez souvent. à Constantinople, à Antioche, etc., qui sont des lieux très importants de l'Église. En Occident, ça va être à Milan, ça va être à Milan ou même un moment à Arles, qui est un peu la tête de pont de l'Empire romain en Gaule. Voilà. Donc vraiment l'arianisme est vraiment triomphant de manière très écrasante. On se souvient de la figure d'Athanase, vous savez, qui a été en exil pendant pas mal de fois. Et puis, malgré ces persécutions, les choses vont petit à petit se transformer, parce que du coup, il va y avoir un travail théologique assez profond pour essayer quand même de rendre compte de tout ça. Donc, je vous ai dit, on a 10 démos. On ne savait pas forcément ce qu'on mettait derrière. On a essayé plein de solutions de compromis dans tous les sens. À chaque fois, ça faisait des insatisfaits, des grands débats, des excommunications, des dépositions, etc. Ça veut dire qu'un siège... un siège épiscopal avait souvent un, deux, voire trois évêques, parce qu'il y a eu une déposition, un exil, mais le gars n'est pas vraiment parti, ou il n'est pas loin, ou il revient, etc. Donc vous imaginez les situations de l'Église à l'époque, qui réjouissait aussi les païens autour, et puis voilà, les autres. Et donc on essaie quand même de trouver des compromis, on n'y arrive pas, donc on bosse au niveau théologique, et ce travail théologique va quand même aller dans le sens des termes du Concile de Nicée, donc consubstantiel, mais en s'écartant de plus en plus donc du sabellianisme, en essayant de formuler davantage justement la consistance des personnes. Donc justement, on va utiliser ces mots. Alors on a des termes justement qui à l'époque ne sont pas chargés de leur sens. Justement, le terme personne, le terme substance, essence. Donc des choses comme ça où on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. Pour vous dire d'ailleurs, le terme qu'on utilisera pour dire substance et personne, donc une substance et trois personnes, en grec, ça peut être le même mot. C'est-à-dire qu'on peut utiliser hypostase pour dire aussi bien la substance que la personne. Donc vous comprenez la confusion. Forcément, les gens, ça se trouve, sont d'accord. En fait, c'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur les mots pour le dire, comment ils sont d'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion et de débats et d'excommunication, etc. Donc ils vont petit à petit prendre conscience en fait de ce problème, qu'en fait c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord, mais c'est souvent parce qu'il y a un problème de définition. Donc ils vont davantage forger les termes, les définir pour pouvoir mieux s'entendre, et donc on va arriver effectivement à cette formulation alors en grec ousia pour substance et hypostase pour personne ou prosopone. Et alors avec l'enjeu, donc le problème, c'est que donc hypostase, vous voyez, ça ressemble à substance, donc ça tend vers l'unité. C'est très chargé, on va dire, comme terme, en termes de consistance existentielle, on va dire. Tandis que le terme latin, lui, persona, en fait, c'est le masque que l'on utilise au théâtre. Et donc, au contraire, c'est très inconsistant comme charge. Donc, les Grecs, quand ils vont voir que les Latins traduisent comme ça, vont commencer à dire « Mais en fait, vous êtes des sabelliens ». Vous voyez, donc cette hérésie du début, etc. Donc, difficulté à s'entendre, puis en plus avec difficulté de communiquer quand même. Alors déjà, parce qu'il y a des langues différentes en plus. Alors déjà, en grec, ils ne s'entendent pas très bien sur les termes. En plus, quand on passe du grec au latin, forcément, on ne se connaît pas forcément très bien l'un l'autre. Les latins, normalement, parlent à peu près grec à cette époque-là, mais ça commence à se perdre.
Les débats, ils sont tous en grec.
Alors, les débats en Orient sont tous en grec, comme la plupart des débats sont en Orient, effectivement. Mais du coup, on essaie quand même de traduire en latin régulièrement. Il y a Jérôme qui essaye de traduire des choses, régulièrement, les traités, etc. Mais parce que le grec, à une époque, il circulait un peu partout, mais il commence à ne plus circuler partout en Méditerranée. Quelques dizaines d'années plus tard, par exemple, Augustin dira qu'il ne parle pas bien grec. Certainement, il parle grec, mais il dit qu'il ne parle pas bien grec. Donc déjà, on voit que ça s'amenuise. En tout cas, le latin est encore une langue régionale. Et donc tout ça fait aussi... Et puis quand on se voit, vous voyez, ça fait 2 mois pour partir d'Orient en Occident. C'est pas Internet, forcément. On ne peut pas se faire de visio pour essayer de s'entendre et passer du temps. Quand c'est en hiver, on ne peut pas circuler sur la mer Méditerranée. Enfin, il y a une inertie aussi très forte. Et puis dès qu'il y a une guerre quelque part, on ne peut plus circuler. L'Empire peut... Enfin, voilà. Donc il y a aussi toutes ces choses. Enfin, c'est pour ça que ça dure aussi des années et des années. Puis dès qu'il y a un empereur qui meurt, ça rebouleverse le jeu, etc. Donc, tout ça fait que l'arianisme va être triomphant pendant très longtemps. Gros travail intellectuel qui va finir donc par triompher malgré justement l'empereur d'Orient de cette époque-là, qui s'appelle Valens, qui va être très pro-arien. qui va même être persécuteur des Nicéens, c'est-à-dire qu'il va envoyer des armées, il va assiéger certains évêques, etc. Il va déposer l'évêque de Constantinople, il va y mettre un arien à la place, et il va y avoir des envoyés du peuple qui vont dire « mais non, on veut pas, on veut garder notre évêque », il va l'acheter à la mer, etc. Oui, on a une autre façon de régler les questions théologiques aussi qui n'est pas forcément sereine. Et donc Valence va être très même persécuteur. Et bien pourtant, les évêques d'Orient, donc particulièrement les Cappadociens, vont pouvoir faire ce travail théologique pour pouvoir arriver à formuler justement cette question unousia, une substance et trois personnes, et essayer de voir comment ça peut se passer entre elles et de sauvegarder à la fois donc, l'unité en Dieu et la consistance des personnes. On va se mettre d'accord là-dessus. Donc les Ariens commencent à reculer un peu. À partir du moment... alors il va y avoir aussi un événement politique, c'est que Valence va mourir. Vous savez, c'est la bataille d'Andrinople. C'était une petite anecdote dont c'est les Goths. Et donc il y avait les Ostrogoths et les Visigoths, vous savez, mais qui sont tous à l'Est, en fait. Les Ostrogoths sont les Goths de l'Est, les Visigoths, les Goths de l'Ouest, mais ils sont tous à l'Est. C'est comme dans Astérix chez les Goths. C'est comme ça que Astérix arrive à perdre Obélix. Donc parce qu'à l'époque, ils sont tous au niveau d'Odessa, mais les Ostrogoths sont à l'Est du Niestre et les Visigoths à l'Ouest. Et en fait, ils vont petit à petit être poussés vers l'ouest. Ils vont arriver donc par là. Et en fait, ils sont poussés par les Huns. Ils vont demander l'autorisation de s'installer dans l'Empire romain parce qu'ils n'arrivent plus à tenir. Donc Valence les accepte. Ils sont à l'époque déjà ariens. Ils sont chrétiens. Ils ont été convertis par des missionnaires ariens. Donc Valence les voit plutôt d'un bon œil. Et puis en plus, ça lui fait des relais. Un peu, il se dit, je vais pouvoir les recruter pour faire la guerre aux Perses. Qui les installe dans les Balkans, qui sont à l'époque dépeuplés. Et puis, en fait, les fonctionnaires qui sont chargés de leur installation, de l'assimilation un peu, etc., vont pas bien faire leur travail. Ça va riper un peu. Ils vont notamment réduire en esclavage les femmes et les enfants. Donc, comme ça arrive dans ces cas-là, des fois, on ripe. Et donc, ça va, les Goths vont se rebeller donc, contre l'Empire. Et vont en fait pendant des années piller les Balkans, etc. Donc Valence ne va pas pouvoir leur résister. Il va rassembler toute son armée à Andrinople et se faire écraser. Et donc c'est la destruction de l'armée romaine à ce moment-là. On date de ce moment-là la fin, un peu la décadence de l'Empire romain d'Occident notamment. Alors Valence était empereur en Orient, mais du coup ça dépeuple totalement, enfin bon, bref, ça désarme totalement l'Empire romain à partir de ce moment-là. C'est alors 378. Donc à cette époque-là, et donc l'empereur qui était en Occident, qui lui était plutôt modéré, plutôt neutre, mais plutôt bienveillant envers les Nicéens, va du coup devoir, Valence n'avait pas d'enfant, donc va devoir nommer un empereur à la place. Il va choisir un général espagnol qui est de famille nicéenne, très nicéenne, donc le Théodose, qui va donc devenir empereur en Orient à ce moment-là. Qui va dire, du coup, les Goths, vous êtes du coup, un peuple fédéré maintenant. Voilà. Vous êtes intégré à l'Empire romain, donc bon, ça sera aussi le début de la fin pour ça. Mais bon, ouais. Et Théodose va donc, lui, beaucoup être très bienveillant vis-à-vis justement de la foi nicéenne. Et donc, tous ces éléments politiques-là, Gratien à l'ouest et Théodose à l'est, à l'Orient, vont en fait faire un cadre politique où le travail théologique qui se faisait depuis des années va pouvoir éclore du coup porter ses fruits et donner une fin en quelque sorte à l'arianisme. Et donc Gratien notamment va être influencé par un évêque qui a pris l'évêché de Milan, un peu par ruse. Il disait trop rien. Il y avait un évêque arien qui était à sa place, enfin, qui était à Milan à l'époque, il meurt, puis il faut le remplacer. Et il y avait une impératrice tutrice, enfin, bref, je vous passe toutes ces questions-là, mais qui, du coup, était plutôt pro-arienne, et va dire, bah, tiens, il y a ce gars-là, un haut fonctionnaire romain qui dit trop rien, on va pouvoir le faire monter comme évêque, et puis on pourra toujours le manipuler. Donc c'était Ambroise, saint Ambroise de Milan, et qui, en fait, était difficilement manipulable, et en fait, va très vite manifester son soutien à Nicée. Et donc, Milan, qui était une poche arienne en Occident, va devenir du coup une poche nicéenne très forte. Et donc, c'est là, c'est une capitale d'empire, il va influencer beaucoup Gratien aussi, dans un soutien plus franc envers Nicée. Ce qui fait qu'en 380, donc, il y a un édit de Gratien, de Théodose, qui vont dire, eh bien, si on veut être chrétien dans l'Empire, il faut être en communion avec Damase, qui est l'évêque de Rome, et Pierre, qui est l'évêque d'Alexandrie. Que Athanase était mort. Et donc, ça va. Donc, c'est intéressant déjà, vous voyez, sur les critères de catholicité, de communion. Ça va être communion avec l'évêque de Rome, qui a toujours été nicéen. Et puis, donc, l'évêque d'Alexandrie également. Et donc, ça règle un peu la question arienne. Et puis, il va y avoir, donc, bah, justement, le concile de Constantinople en 380, qui va notamment achever de régler cette question de l'arianisme. Au moins institutionnellement, mais comme je vous l'ai dit, les barbares ont eux-mêmes été convertis à l'arianisme. Donc les Visigoths, qui vont en fait aller jusqu'à l'ouest, parce que vous savez, ils sont installés après dans le sud-ouest de la France et jusqu'en Espagne. Donc ils ont beaucoup bougé, hein, d'Odessa jusque-là. Et puis il y a les Burgondes aussi, par exemple, qui sont aussi ariens, les Vandales, qui sont aussi ariens, et qui, eux, vous savez, s'installeront en Afrique du Nord. C'est eux qui feront le siège d'Hippone, durant lequel Saint-Augustin va mourir. Donc ça c'est en 430, c'est beaucoup plus tard, mais c'est ils s'installent quand même avant en Afrique du Nord et ils sont eux-mêmes ariens. Donc ça fait une grande persistance aussi de l'arianisme pendant très longtemps aussi à cause de ces peuples-là. Vous savez que c'est la chance de Clovis d'avoir trouvé une catholique parmi les Burgondes, parce que les Burgondes étaient ariens, mais il va trouver une fille catholique qui est Clotilde et qui va permettre donc à la France d'être catholique. Ça c'est donc l'arrivée. Entre-temps, donc là, c'était le résumé, on va dire, la séance précédente. Entre-temps, donc, on avait commencé, donc, je vous dis, à régler la question théologique, finalement, père-fils, une substance, etc. Forcément, il y en a qui se sont dit, oui, mais au fait, l'Esprit-Saint, est-il vraiment Dieu, lui ? Et notamment, c'était des anti-ariens qui vont dire, ou des semi-ariens, qui vont dire, d'accord pour le père et le fils, tout ça, on est d'accord, mais l'Esprit-Saint, évidemment, il n'est pas Dieu. Parce que du coup, c'est certainement une puissance de Dieu, quelque chose qui vient après. Enfin, on voit bien qu'il y a un côté troisième roue du carrosse. Ça ne marche pas, mais bon, en tout cas, c'est cette idée que ça vient un peu après. C'est certainement une sorte d'ange, mais que l'Esprit Saint, a priori, n'est pas Dieu. Donc, c'est ce qu'on va appeler les pneumatomaques. Donc, pneuma, vous voyez, c'est le. Comme les pneus, c'est le souffle, c'est l'esprit. Pneuma, et donc c'est le pneumatomaque, ceux qui combattent l'esprit, quoi. Ceux qui sont contre l'Esprit Saint. Donc, avec cette idée, effectivement, donc, l'esprit n'est pas vraiment Dieu. Ça va marquer quelques endroits, quand même, dans l'Église. Ça va être quand même relativement important. Ça ne va pas du tout avoir l'impact de l'arianisme, quand même. Bah déjà, ça va durer beaucoup moins longtemps, et puis ça va avoir beaucoup moins d'extension dans l'Église. Mais ça va être donc aussi une question qui va être réglée au Concile de Constantinople en 381. Puisqu'on va aussi, dans le credo, donc, le symbole de Nicée disait... Je vous ai raconté ce qu'est un symbole. Non. Donc, bon, je vais vous le dire. Donc, dans le symbole de Nicée, on avait juste dit « et en l'Esprit Saint ». Et comme on a un peu, vous savez, dans notre formule baptismale, hein, je crois à la fin en l'Esprit Saint et à la Sainte Église catholique, etc. Enfin, dans le symbole des apôtres, on va assez vite sur l'Esprit Saint. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, bien justement, on va élargir cette question de l'Esprit Saint. On va beaucoup plus expliciter ce qu'il est pour justement rappeler la divinité de l'Esprit Saint. C'est peut-être le moment où je peux vous distribuer justement les copies de... Normalement, il n'y en a peut-être pas assez pour tout le monde. J'en ai fait 30. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Ça sera aussi la question qui sera réglée à Constantinople. Alors, Constantinople, c'est donc le deuxième concile œcuménique, qui en fait n'était ni un concile ni œcuménique, mais on l'a relu comme concile œcuménique quelques 70 ans plus tard, en se disant que effectivement c'était là un concile œcuménique très important. Beaucoup plus tard, on a relu les événements à cette lumière-là. À l'époque, c'est un synode local dont on parle très peu en fait dans les sources contemporaines de l'époque. Donc c'était plutôt un synode. Il s'en est tenu en même temps en Occident. Et justement, l'idée c'était plutôt d'être local. On n'avait pas à convoquer, par exemple, d'occidentaux. Même si à Nicée, je vous souvenez, il n'y en avait déjà pas beaucoup de toute façon des occidentaux, mais donc c'est, il va prendre une charge plus forte à la relecture parce que, à cause de ce symbole qu'il a écrit et qu'on va réutiliser quelques années plus tard pour vraiment faire l'unité de l'Église, et puis à cause d'une autre décision dont je vais vous parler. Voilà, en Occident, on fait la même chose à Aquilée, donc en Italie, avec justement Saint Ambroise, pour régler aussi, pour solder la question arienne. Donc à ce moment-là, on va canoniser en quelque sorte les termes de Nicée. Vous voyez, c'est intéressant comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose à Nicée sans très bien savoir ce qu'on dit derrière. Ça ouvre une période de crise, concrètement, dans toute l'Église. On va s'écharper, se déchirer, etc., mais on va aussi bosser théologiquement. Et, concile de Constantinople, ben, on règle la question et on se dit, effectivement, on reprend les mêmes termes, mais voilà ce que ça veut dire, et du coup, ça permet de régler la question. Donc, je vous ai parlé un peu d'hypostase et des personnes, etc. L'idée derrière ça aussi, c'est... donc, on va définir les termes. Et vous voyez, Saint-Augustin, quand quelques années plus tard, il va écrire, donc 20 ans plus tard, il écrit son traité trinitaire, De Trinitatis, il écrit son traité trinitaire, et lui-même dit qu'il n'y comprend pas grand-chose. Vous voyez ? Il dit, les Grecs disent ça, les Latins disent ça, très bien, je d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc vous voyez combien cette question, même une fois qu'elle est tranchée, reste encore un peu là. Alors, pour vous juste redescendre un peu plus dans ce détail pour vous montrer la complexité de ça, hypostase, vous avez le mot hypo, vous voyez, qui veut dire dessous. Qu'est-ce qu'il y a comme mot courant qui veut dire ça?
Hypothermie.
Hypothèse, hypothermie, 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 c'est très bien. C'est dessous. Et puis, hypostase, donc stase, c'est justement ce terme pour dire ce qui reste, ce qui demeure, etc. Et donc, c'est ce qui soutient, ce qui demeure, si vous voulez. Ouais. Donc, le terme exactement équivalent étymologiquement en latin, ça va être substance. Vous voyez, c'est exactement la même construction étymologique. Et alors, en théologie, ils vont exactement dire l'inverse. Voilà. Parce que, justement, le mot ousia, qu'on utilisait pour dire substance, eh bien, c'est ce qu'on dirait pour essence, nous, en latin. Ce qu'il y a, c'est qu'en Dieu, l'essence et la substance, c'est la même chose. Parce que comme il est un, il a son essence, c'est d'être un. Donc, en l'homme, c'est différent, parce que nous sommes d'essence humaine, mais nous sommes des substances différentes. Bon, l'essence, c'est l'équivalent de nature aussi, si vous voulez. Mais donc, on est d'essence humaine. Donc, voilà, nous sommes un homme, je suis un homme, vous êtes des humains, etc. Mais nous avons chacun une substance propre, qui est notre personne. Parce que nous sommes matériels, donc ce qui soutient notre essence, substare, voilà, c'est ce qui soutient notre essence, c'est notre personne. Donc la différence personnelle, nous, elle est c'est notre substance. Par contre, en grec, donc, hypostase, justement à cause de ça, comme nous sommes tous des substances différentes, là, eh bien, même si nous avons la même essence, nous sommes tous des substances différentes, eh bien, justement, c'est ce qui va servir à dire personne. Parce que substance, 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 donc c'est personne, personne, personne. Et donc, ça va servir en grec à dire personne. Mais vous voyez bien qu'étymologiquement, c'est exactement inversé. Donc c'est pour ça que Saint-Augustin, quand il va bosser le truc, il va dire, du coup, moi, je connais un peu de grec, je vois ce que ça veut dire étymologiquement, mais du coup, je ne comprends pas très bien. Bon, tant qu'on dit que hypostase, ça veut dire substance, et que... ça veut dire personne, pardon, du coup, je vais me dire. Et ousia, substance, bon, très bien, je suis d'accord, mais du coup, je ne comprends rien très bien comment tout ça s'est fait. Quoi. Donc vous voyez... C'est aussi ce croisement-là qui fait la chose. Donc, Constantinople, réception de Nicée. Comme ce n'était pas un grand événement à l'époque, on n'a pas tellement, donc je ne peux pas vous donner plein d'anecdotes dessus, mais on a gardé donc le symbole, qui va devenir à ce moment-là le symbole de Nicée-Constantinople. On va aussi prendre une décision qui va être très lourde de conséquences pour la suite. On va dire notamment qu'on va commencer à parler de la place éminente du siège de Constantinople. Donc le siège de Constantinople, à l'époque, ce n'est pas un patriarcat. La capitale est assez récente, donc elle a été fondée par Constantin au début du IVe siècle. Donc qu'on est en 380, c'est 40, 60 ans avant. C'est plutôt récent par rapport à Rome. Et donc les patriarches et les patriarcats à l'époque, donc ça va être Rome, Alexandrie, Jérusalem et Antioche. Antioche, actuellement en Turquie, dans le sud de la Turquie.
C'est Antioche de Pisidie ou c'est l'autre?
Alors c'est...
Sur Orange, c'est en Syrie et Pisidie, c'est en
Antalya. C'est Pisidie, c'est Antalya, c'est ça.
Antakya.
Bien sûr, la côte. Oui, c'est sur la côte. C'est juste le petit bout qui était en Syrie, qui a été donné à la Turquie après la Première Guerre mondiale.
Qui a été pris par la Turquie à la France,
mais qui a été un peu laissé par la France à la Turquie aussi. on n'a pas défendu bec les ongles le truc. Et donc, on l'avait dit la semaine dernière ou pas, je ne sais plus, c'était une ville chrétienne jusqu'au début du XXe. C'est là où les chrétiens ont reçu le nom de chrétien, etc. Et donc, ça a été perdu et c'est devenu totalement musulman depuis le début du XXe. Une petite histoire de 2000 ans qui s'est effacée à ce moment-là. C'était le premier siège aussi apostolique épiscopal de Pierre, de Saint-Pierre. Pierre, avant d'être évêque de Rome, il était évêque d'Antioche. Donc voilà, c'est une grosse histoire chrétienne à Antioche. N'est plus chrétienne. Et donc c'était un siège, c'était un des quatre patriarcats importants de l'époque. Donc il y a des sortes de chrétiens qui sont de liturgie antiochienne, justement. Et alors, à ce moment-là, on va dire, bah oui, mais Constantinople, c'est la capitale. C'est la nouvelle Rome. Et donc, ça doit être un patriarcat aussi, et il doit avoir la prééminence sur les autres patriarcats, puisque c'est la nouvelle Rome, la nouvelle capitale, avec cette idée politique derrière la définition du patriarcat, en disant bah, Rome, c'est la capitale de l'Empire historique, donc c'est pour ça qu'elle est un peu siège éminent, etc. Mais du coup, bah, il y a une nouvelle Rome à l'Orient, et ça doit être celle-là. Et alors, du coup, ça va être un canon, donc une décision du Concile, qui va rester une pierre d'achoppement entre l'Orient et l'Occident, puisque Rome va refuser cette idée-là. Par ailleurs, ça va être aussi une source de division ensuite entre chrétiens d'Orient, parce qu'en fait, les chrétiens d'Égypte, qui sont une très très grosse église, et puis un très grand peuple, très historique, etc., l'Égypte, vont toujours avoir du mal à être sous la soumission de Constantinople. Même ensuite, quand tout le monde est devenu musulman, ça s'est resté la même chose, quoi. Il y a la sorte d'importance de l'histoire nationale derrière ça, qui est importante. Et donc, avec cette idée que Constantinople aurait une tutelle sur les autres, bah, ça va être une tutelle assez mal supportée par les autres patriarcats. Et d'où, en fait, l'Église copte, qui n'est pas forcément en communion avec les... Enfin, qui n'est pas en communion avec les autres orthodoxes, en fait. Ça fait plein de sortes d'orthodoxes un peu partout, à cause aussi de ces questions politiques de domination, etc. Donc ça va être une pierre d'achoppement qui commence là, à partir de Constantinople. Donc, quelques années plus tard, Augustin va écrire, vers 400, son traité sur la Trinité, avec cette anecdote, vous savez qu'il est... on raconte qu'il se baladait sur une plage en train de réfléchir à son traité trinitaire, et là, il voit un enfant qui a creusé un petit trou sur la plage et qui fait l'aller-retour entre la mer et ce petit trou avec un coquillage, et il remplit le petit trou avec l'eau de la mer. Et puis Saint-Augustin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vide la mer et je la remplis dans mon petit trou. Il dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Et le petit garçon lui dit, toi, tu écris bien un traité sur la Trinité. Donc voilà, une petite anecdote sur l'ampleur de la tâche à laquelle Saint-Augustin s'attelait. C'est un traité trinitaire très, très important qui va être fondateur pour toute la théologie occidentale par la suite. Donc, il a intégré celui de Saint-Hilaire. Vous savez que Saint-Hilaire, je vous avais dit, il en avait parlé dans les années... Justement, dans cette effervescence intellectuelle, il avait travaillé sur la Trinité dans les années 350-360, avec un concile à Paris, vous vous souvenez, où il avait condamné ses précédents condamnateurs. Et donc, il avait écrit un traité sur la Trinité en latin. Et puis, il y avait d'autres, donc, il était traité cappadocien en grec. Mais le traité de Saint-Augustin va être très important, parce que notamment, il va formuler davantage comment ça peut se passer dans les relations entre les personnes, pour dire comment ça peut marcher, quoi. Donc, cette idée que 1 égale 3 est possible dans la mesure, justement, où Dieu n'est pas matériel. Ça, d'accord. Nous sommes des substances, encore, je vous rappelle, parce que nous avons des corps matériels, etc. Donc, on a beau s'aimer beaucoup, on ne peut pas fusionner. Donc, vous savez, quand on dit au mariage, ils ne feront plus qu'un, etc., ça reste théorique quand même. Il y a toujours deux personnes bien différentes, qui ont des rythmes bien différents, et qui ne s'entendent pas toujours, ne se comprennent pas toujours, etc. Donc, ça reste bien là, quand même, cette dimension-là, même si on ne fait qu'un. Voilà. Nous ne sommes qu'un dans le corps du Christ, mais quand même, on garde quand même l'intégrité de nos corps. En Dieu, comme il n'est pas matériel, il n'y a pas donc cet obstacle, justement, du corps. Donc, c'est pour ça que 1 peut être égal 3. Donc un seul être divin en trois personnes. Mais comment, mais quelle est la consistance de ces personnes? Est-ce que ce sont juste, on reste malgré tout sur cette question, comment arriver à la formuler? On a beau dire qu'elles sont des vraies personnes, etc., comment arriver à la formuler? Et quelle va être la différence entre ces personnes, puisque justement, elle n'est pas matérielle? Est-ce qu'elle est juste de fonction? Mais à ce moment-là, ça serait presque justement subordonné à une mission, etc. C'est difficile de dire cette fonction, elle est éternelle, parce qu'on peut dire, le Fils est sauveur, par exemple, ou il est, où il crée avec le Père, etc. Mais la création n'a pas toujours été, justement. Elle commence, le temps commence avec la création. Si c'est juste leur mission, si on dit qu'il est juste sauveur, ça ferait dépendre le Fils, l'identité du Fils et son être, son identité de personne, ça le ferait dépendre justement de sa mission sur la terre. Donc ça dépendrait que les hommes aient péché, etc. Enfin bref, tout ça est un peu compliqué à faire rentrer dans la définition. Comment on arrive à différencier les personnes? Eh bien, saint Augustin va être le premier à formuler la chose en termes de relation. Il va dire justement, la différence des personnes, elle est relative. C'est-à-dire que le Fils est Fils par rapport au Père, le Père par rapport au Fils, et l'Esprit Saint est l'amour, l'unité des trois. L'unité des deux, il fait l'unité des trois. Et il va formuler comme ça, et en disant, cette relativité en Dieu va constituer leur personne. Puisque ça se passe dans l'éternité, cette question relative de la situation de l'un par rapport à l'autre va être constitutif de leur personne. C'est-à-dire que le Père n'est pas Père avant d'avoir un Fils, si vous voulez, et le Fils n'est pas Fils avant d'avoir un Père, etc. Donc ils sont co-éternels. Il n'y a pas eu le Père pendant très longtemps qui a attendu d'avoir un Fils à quelques années, etc. Puisque le Père n'est pas Père avant d'avoir un Fils, forcément. Donc de toute façon, les trois personnes sont co-éternelles. Il y a un seul être divin, en trois personnes co-éternelles. Donc il n'y a pas eu non plus un moment où il y avait une sorte d'un seul Dieu, puis à un moment ils se sont partagés en trois non plus. Et puis avec cette idée aussi que, à cause de leur unité aussi d'essence, de substance, ils vont aussi être partie prenante de tout ce que l'un fait. C'est-à-dire que les trois peuvent être dits amour, mais l'Esprit Saint est plus l'amour, à cela en propre en quelque sorte. Dans son identité, parce que c'est justement l'amour du Père et du Fils, et donc il a c'est l'identité de l'Esprit Saint d'être l'amour en Dieu, même si tout Dieu est amour. Donc on va pouvoir pouvoir rendre compte des relations en Dieu. Saint Thomas va reprendre cette définition en donc parlant de relations subsistantes, c'est-à-dire que justement ces relations, c'est ce qui va constituer leur... c'est pas substance, mais vous voyez, subsistant. C'est-à-dire, c'est ce qui les rend présents dans l'éternité. Ça va aussi, vous voyez, nourrir énormément la conception qu'on a de la personne. C'est-à-dire que la personne, vous voyez, ce concept de personne qu'on a aujourd'hui, à l'époque, il n'existait pas, il n'était pas chargé. On avait d'un côté donc les masques, vous voyez, persona en latin, c'était juste des masques. Puis de l'autre côté, Et donc, la considération de l'individu, de la personne humaine, elle était beaucoup moins grande parce qu'on n'avait pas cette idée aussi de la personne humaine en vis-à-vis de ce que veut dire une personne en Dieu. Et en fait, de grandir théologiquement à partir de la conception de la personne en Dieu va nous faire grandir aussi sur l'unicité de la personne humaine et sa dignité en propre, etc. Avec cette idée aussi de relation qui constitue, vous voyez, c'est pour ça que la personne est différente de l'individu. L'individu, c'est quelque chose d'abstrait, c'est une sorte d'unité un peu qu'on peut additionner. Mais que la personne est toujours unique parce qu'elle est dans une histoire, dans un réseau de relations, etc. Et tout ça descend aussi notamment de la théologie trinitaire. C'est comment, à partir aussi de la théologie trinitaire, on va se dire, comment est l'homme aussi, parce que c'est aussi à cette image-là qu'il a été créé. Voilà quelques éléments. Je vous propose donc de descendre un peu sur le credo, justement. que vous avez. Je sais pas si vous en avez tous, du coup, ou pas ?
C'est celui de Nicée-Constantinople.
Alors, oui, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Le symbole, donc je ne vous ai pas dit ce que ça voulait dire, symbole. Symbole, à l'époque, c'est... voilà, c'est comme une pièce de puzzle, si vous voulez, c'est un peu l'idée. C'est une pièce d'argile. Si, je ne sais pas, par exemple, deux militaires ont fait leur armée ensemble, à l'époque, ça dure 20 ans, donc on a le temps de lier amitié, on fait l'armée ensemble, et puis bah, chacun, après, retourne dans son pays ou fonder une colonie, je ne sais pas où, enfin, bref. Et du coup, on se sépare, mais quand même, on était bons amis, donc on va se donner un signe de reconnaissance au cas où on veut s'envoyer, c'est une sorte de lettre de recommandation. Par exemple, je vais t'envoyer mon fils en stage, bah, du coup, il reviendra avec la deuxième pièce du puzzle, et comme ça, tu pourras le reconnaître, ça s'emboîtera, et ce sera bien mon fils, quoi. Et du coup, tu pourras bien lui... Voilà. Et donc, c'est une pièce d'argile qu'on casse en deux, et donc qui devient comme une sorte de pièce de puzzle qu'on peut emboîter, et qui va être ce signe de reconnaissance. Voilà. Et donc, le symbole, c'est ce signe de reconnaissance. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise un symbole. C'est un signe de reconnaissance entre chrétiens. Donc, au début de chaque concile, on fait souvent un symbole pour être sûr qu'on est en communion les uns avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs symboles qui vont être formulés dans ces années-là. On va tâtonner justement un peu au niveau des symboles. Il va y avoir qui vont être un peu dans tous les sens, notamment au niveau du Fils. Donc, voilà ce qu'est un symbole. C'est pour ça qu'il y a le symbole des apôtres qui juste reprend la formule liturgique baptismale, qui existe depuis le début, qui est le prolongement de Saint Matthieu, si vous voulez. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir aux commandements. Donc ça, c'est la fin de l'évangile selon Saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un prolongement de ça. Et donc le symbole de Nicée-Constantinople, lui, va être beaucoup plus développé. Alors, dans tout symbole, on a toujours cette structure. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la structure propre de chaque symbole. Le Père Tout-Puissant, il est un peu moins développé parce qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de lui, créateur de la terre, de l'univers visible et invisible. Et puis ensuite, donc, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, ce qui justement ressort de la querelle arienne dans les mots que je viens de dire? Alors, consubstantiel, évidemment. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous voyez d'autres choses?
Vrai Dieu.
Donc, vrai Dieu né du vrai Dieu. Donc, ce n'est pas un faux Dieu, un demi-Dieu, etc. Alors, engendré, non pas créé. Voilà. Donc, il n'y a pas un temps où il n'était pas fait. Et donc, on va distinguer créé, fait et engendré. On va différencier né et engendré. C'est-à-dire que l'engendrement... Au début, c'est pareil, ce n'était pas chargé dans le sens. On va donner ce sens aux mots. C'est-à-dire qu'on va prendre des mots qui existent et on va leur donner ce sens-là. Parce qu'on a besoin, pour dire ce qui n'avait jamais été dit, on a besoin de charger les mots de quelque chose de nouveau. Donc engendrer, ça va être le mot qu'on va choisir, effectivement, pour dire cet engendrement éternel du Père et du Fils. Du Fils par le Père. Avec cette idée que, voilà, c'est en dehors de l'histoire et que, du coup, ça peut être un engendrement spirituel. Et que né... Avec cette idée de pareil, enfin en latin, né nature, c'est un mot de la même famille. Donc là, pour le coup, ça va plus être dans la création, quoi. Donc né dans l'histoire, mais engendré dans l'éternité. Voilà. Donc non créé, enfin engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Ça, on se souvient, c'est un terme du prologue selon Saint Jean, de l'évangile selon Saint Jean. Où justement par lui tout a été fait, on reprend ce terme-là pour dire aussi, bah donc pour justifier aussi, il n'a pas été créé justement parce que par lui tout a été fait. Donc si par lui tout a été fait, comme le dit Saint Jean, bah, Arius, tu as tort, il ne peut pas avoir été créé, sinon par lui tout n'aura pas été fait. Donc puisque par lui tout a été fait, c'est un des arguments scripturaires qui va être contre Arius. Voilà, Dieu né de Dieu, etc. Voilà. Je vous disais né dans l'histoire, mais né du Père avant tous les siècles. Mais bon. Voilà, donc ça c'est les termes là-dessus. Ensuite, donc on continue pour le coup sur la mission du Fils. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris charge de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, son prince pilote, il souffrit sa passion, fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors, il n'y a pas de, d'innovation spécifique. On parle de la mission du Fils sur la terre. C'est là, on résume en quelque sorte l'évangile sur ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne. Voilà, juste petit aparté, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que nous attendons dans le temps de l'Avent, voilà, sur lequel nos lectures sont fixées. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Vous voyez, là aussi, on a, au lieu de dire « ayant l'Esprit Saint », on a élargi quand même beaucoup plus la proposition sur l'Esprit Saint. Donc, il est Seigneur, il donne la vie. Donc, on dit un peu ce qu'est l'Esprit Saint. On dit qu'il procède du Père et du Fils. Vous connaissez peut-être la querelle là-dessus qui a eu lieu ensuite. C'est la version latine du credo, du symbole de Nicée-Constantinople. La version catholique grecque, ou la version orthodoxe grecque, elle ne parle pas du Fils. Elle ne parle pas, c'est le latin qui a ajouté filioque et du Fils. Il procède du Père et du Fils. Alors, ça, c'est une question dans laquelle je ne suis pas descendu pareil en détail, donc je ne comprends pas tout. Mais selon, vous savez que les langues ont leur génie propre et qu'elles connotent, elles portent quelque chose dans leur sens. Et des fois, il y a besoin d'expliciter quelque chose, de rajouter quelque chose dans une langue pour rester fidèle à la langue que l'on traduit. C'est-à-dire que dans une langue, on va pouvoir ramasser les certaines choses, et puis dans une autre, en fait, on va devoir expliciter la chose, parce que, comme je suis tout à l'heure, hypostase et substance, des fois les termes qui étymologiquement, on pourrait dire mathématiquement, on pourrait mettre un signe égal entre eux, mais en fait, dans la langue, pris dans le réseau culturel, dans le sens des mots, etc., ne veut pas dire la même chose. Et donc, on considère effectivement qu'en grec, il n'y a pas besoin d'ajouter « et du fils », parce que quand on parle du Père, ça comprend le Fils. Tandis qu'en latin, pour rester fidèle à la dimension justement où le Père n'agit pas seul, eh bien on est obligé de rajouter « et du Fils ». C'est ce qu'on m'a dit, je ne connais pas les détails davantage, parce que je ne suis pas assez bon en latin et en grec pour vous en dire davantage, mais c'est ce que j'ai compris de la question. Vous savez, alors c'est une question qui est postérieure, c'est plutôt vers l'époque de Charlemagne qu'on commence à faire un concile en Espagne qui va parler du filioque, et puis ça va se répandre un peu partout chez les latins, et que ça va être l'une des questions de tension entre les orientaux et les occidentaux. Il faut relativiser énormément cette question, ça va être le prétexte, mais vous avez bien compris, comme je vous ai dit depuis le début, que entre orientaux et occidentaux, dès le début, on ne se comprend pas, en fait. Dès le 4e siècle, on s'excommunie. Dès le début, on s'excommunie. Pour vous dire, pour vous prendre un exemple, Saint Ambroise, Théodose, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui devient d'abord évêque d'Orient, puis ensuite devient évêque d'Occident aussi. Donc, c'est le dernier à avoir unifié l'Empire. Ça, on parle du dernier Romain. C'est le dernier à avoir unifié l'Empire d'Orient et d'Occident. Donc, il était seul empereur en Orient et en Occident. Et alors, quand il est allé à la messe à Constantinople, eh bien, en tant qu'empereur, et donc en tant qu'évêque de l'extérieur, en tant que chargé, une sorte de grand prêtre, eh bien, il entrait dans le cœur. Il avait sa place dans le cœur, comme les prêtres. C'est-à-dire, dans la procession d'entrée, l'empereur allait avec les prêtres et les évêques. Et quand il allait dans sa capitale en Occident, à Milan, eh bien, il arrivait de ça. Puis il commence à arriver dans la procession d'entrée avec Saint Ambroise. Puis Saint Ambroise se retourne et en gros, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, empereur ? Tu es empereur, on te respecte dans ton ordre propre, etc. Tout ça, c'est très bien. T'es notre empereur, on t'aime beaucoup. Mais la pourpre des empereurs n'a rien à faire dans le cœur. Ici, c'est pas la même chose. Donc tu restes dans l'assemblée, t'es laïc comme les autres. Vous voyez, le même empereur, à la même époque, il va y avoir deux façons très différentes de concevoir notamment le rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, entre les deux autorités, avec cette idée qui est restée souvent dans les églises orthodoxes, avec des églises nationales, avec finalement derrière ça l'idée un peu que le chef d'État est aussi le chef de l'église, et tandis qu'en Occident, même avant même le déploiement de la papauté très forte, etc., ben même déjà à cette époque-là, d'ailleurs c'est pas le pape qui lui dit ça, c'est l'évêque de Milan, qui n'est pas le pape, qui va différencier, distinguer les deux autorités, les deux pouvoirs. En disant, ce n'est pas la même chose. On est soumis l'un à l'autre, chacun dans notre ordre propre, mais du coup, c'est différent. Vous voyez, le même empereur, même époque, deux choses déjà différentes. Vous voyez, entre Orient et Occident, ça peut être le filioque si vous voulez, mais en fait, c'est quand même des questions différentes dès le début, de langue, de culture et de rapport au religieux, de rapport au pouvoir politique, etc. etc. Oui. C'est toujours des questions actuelles, hein. Kirill en Russie, dans quelle mesure, enfin voilà. Donc voilà. Orient et Occident, donc filioque. Juste pour finir là-dessus, la vraie séparation, c'est le sac de Constantinople et la chute de l'Empire. Enfin voilà, c'est ces relations, c'est surtout ça qui a quand même brisé très fortement aussi, qui a fini de briser, de séparer les deux. Donc du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Voilà. C'est surtout là qu'on va dire vraiment l'Esprit Saint est vraiment Dieu et donc il reçoit même gloire avec le Père et le Fils. Il a parlé par les prophètes. Et puis après, donc, dans cet article sur l'Esprit Saint, on parle de l'Église, une sainte catholique et apostolique, etc. Donc, vous voyez, l'article du credo sur l'Église est dans l'Esprit Saint, parce que l'Église, bien, c'est justement l'œuvre de l'Esprit dans le monde, etc. Donc, l'Église est toujours comprise dans cet article sur l'Esprit Saint, qui nous fait comprendre un peu cette mission. Enfin, aussi, c'est les processions divines et les processions dans l'éternité. Le Père, le Fils, le Père engendre le Fils, et le Fils et le Père, ce qu'on appelle spire l'Esprit Saint. Donc ça, c'est les processions éternelles. Puis il y a les processions historiques, c'est-à-dire que c'est comment en fait ce Dieu est révélé dans l'histoire. Donc Dieu est révélé un dans l'Ancien Testament, et puis il se révèle Trinité avec le Fils, le Nouveau Testament, qui envoie l'Esprit Saint ensuite. Oui, l'Ancien Testament, ce n'est pas le moment du Père. C'est le moment du Dieu un, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament, mais ils se révèlent comme Trinité dans le Nouveau Testament par le Fils, qui envoie ensuite l'Esprit Saint. Voilà quelques éléments. Peut-être cela a-t-il suscité quelques interrogations.
Oui. En ayant le texte sous les yeux, je vois une lecture qui m'interpelle. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et ensuite,
il est Seigneur,
l'Esprit Saint qui est Seigneur,
qui donne la vie.
Oui. Donc, ça en fait
et effectivement, littéralement, c'est ça. Alors, il faudrait voir en grec, j'imagine, c'est Kyrie aussi les deux fois. Je ne me suis jamais posé la question, effectivement. C'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait s'en sortir en disant c'est une même seigneurie de toute façon. Donc justement, ça va être plus l'unité en Dieu à ce moment-là que... D'ailleurs, le Fils appelle son Père maître et Seigneur aussi. Enfin, donc voilà, je pense que la seigneurie de Dieu, elle est partagée. Elle est une, mais il y a certainement le Fils qui va l'identifier davantage. Vous trouvez que c'est une galipette?
Oui.
Non, je pense qu'il y a quand même quelque chose de ça malgré tout. Je pense que la seigneurie de Dieu, c'est là. Effectivement, le Fils là en propre, mais les trois personnes ont évidemment cette seigneurie.
Et au début, c'était traduit comment Dieu est Seigneur?
Alors en grec, je pense que en grec, c'est Théos, Dieu, et Seigneur, c'est Kyrie.
Mais excusez-moi. Les théologiens à l'époque, ils se sont basés sur quel texte du Nouveau Testament pour arriver à trouver cette formulation des trois personnes? Parce que c'est quand même pas clair.
Alors, la formulation des trois personnes, c'est-à-dire là, c'est le fait de dire personne et substance?
Enfin, dans les évangiles,
ouais.
Ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les épisodes où on peut avoir une perception de ce qui a été formulé pendant les conciles.
Oui. Alors, de fait, on ajoute déjà, parce que effectivement, les évangiles en eux-mêmes ne suffisent pas à...
Voilà.
Donc, il faut développer théologiquement ce qu'il y a de contenu dans les évangiles. C'est-à-dire que c'est plutôt de l'ordre de la théologie négative. Théologie négative, c'est-à-dire pour sauvegarder le mystère qu'il y a dans l'évangile, voici ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, ils sont forcément trois et forcément un. Et après, comment on va pouvoir approfondir, etc. Mais on ne peut pas dire les trois se résolvent en un ou l'un est plus grand que l'autre, etc., pour sauvegarder l'évangile. On va pouvoir convoquer, ça va être une grande bataille scripturaire, effectivement, dans des deux côtés. Arius va beaucoup, lui, se fonder sur Proverbe 8, sur justement où il va parler de la sagesse qui a été faite. Et comme le Fils est la sagesse, etc. Donc on va utiliser ça. Pour, si on veut aujourd'hui fonder assez facilement et rapidement une théologie du Fils comme étant vrai Dieu, on va lire l'Évangile selon saint Jean. Le prologue, typiquement, au commencement, commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, etc. Donc voilà, du bon massif qui est là, qui nous rappelle la divinité du Fils. Et il y a plusieurs... donc déjà, tout le prologue reprend quand même beaucoup ça, cette question de la lumière aussi, etc. Et puis après, il y a plusieurs épisodes aussi dans saint Jean. Vous savez, notamment la prière sacerdotale de la gloire que j'avais avant le voilà, tu me glorifieras, etc. Enfin, voilà, donc cette question de gloire aussi qu'il avait avant les temps, qui lui sera redonnée, etc. Donc toute cette question, l'évangile selon saint Jean, vous pouvez piocher dedans. Après, il y a les formules. En fait, c'est surtout beaucoup à partir des formules liturgiques que ça a été vécu. C'est-à-dire que par exemple, les doxologies qu'on a dans les lettres. Vous savez, au début, saint Paul, à chaque fois, il fait un peu des doxologies, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de grande formule. Vous savez, nous, on dit « bonjour, machin » ou « cher ami ». À l'époque, il disait « bon, voilà, dans le Christ, dans le Père, et par l'Esprit Saint, etc. » Donc, on a des formules à chaque fois qui sont trinitaires, en fait, dans ces doxologies-là, ou pas, en tout cas, quasi systématiquement trinitaires. Des fois, on parle juste du Fils, mais quasiment systématiquement, elles sont trinitaires. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vécu dans l'Église avant d'être conceptualisé. C'est d'abord quelque chose de vécu, puis ensuite il y a question du baptême, donc avec la question de saint Matthieu, etc. Pareil, on baptise dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et donc ça va être aussi. Donc c'est d'abord des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sur les Écritures. On peut trouver dans un sens ou dans l'autre, mais quand même c'est quand même assez massif de ce côté-là, du côté de la consubstantialité. Et puis après c'est vécu liturgiquement. Et après, donc, ça a commencé à être explicité dans des symboles locaux. Par exemple, le symbole dont on va se servir à Nicée, notamment certainement le terme de coéternel ou consubstantiel, était dans un des credos de l'Église d'Alexandrie. Et c'est peut-être même justement pour ça qu'Arius s'est un peu rebellé, etc. Ouais, c'est parce qu'on utilisait des credos locaux. Donc à un moment, Zeb, il utilisait aussi un credo local, donc pour les baptêmes aussi. Ils utilisent une formule pour les baptêmes. Et donc, ils vont dire, bah, tiens, nous, on utilise ça, est-ce que vous ne voudriez pas prendre ça? Vous voyez, quand on se réunit, tout le monde se réunit, chacun partage un peu ses symboles locaux, etc. Donc, dites, tiens, est-ce que ça vous intéresserait? Ça pourrait régler peut-être la question, etc. Parce que, en fait, selon les questions locales aussi qui se sont posées, on va insister sur tel ou tel point. Oui. Par exemple, on dit que les orientaux insistent souvent sur l'unicité de Dieu, parce qu'ils sont ils refrainent souvent un seul Dieu, machin, etc., parce qu'ils sont en confrontation avec les musulmans, qui les accusent d'être trithéistes. Et donc, ben, dans leur formulation liturgique, ils rappellent souvent que non, on croit en un seul Dieu. Donc, ils insistent beaucoup dans la liturgie sur un seul Dieu, beaucoup plus que nous en Occident. Donc, vous voyez, c'est ce genre de pratiques qui sont d'abord liturgiques, et puis aussi dans les Écritures, et qui après vont être...
Mais ça, c'est postérieur, parce que les musulmans, c'est 7e siècle.
Oui, bien sûr, c'est postérieur, oui. Mais c'est pour vous donner un exemple de comment on vit les choses liturgiquement, en fait. Liturgiquement, on va insister sur un truc, parce que ça va être local, et puis Donc effectivement, mais du coup, on avait les mêmes questions à l'époque. Tiens, il y a un problème local, du coup, on va insister sur tel truc dans la liturgie, voilà. Et tel autre va prendre telle doxologie, on dira, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, voilà. C'est comme ça. À un moment, on disait au nom du Père, dans le Fils, non, par le Fils et dans l'Esprit. Et puis, à un moment, il y en a un qui dit ah oui, mais avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, pour bien montrer qu'ils sont trois personnes vraiment consubstantielles. Et donc, les autres vont dire mais pourquoi tu dis ça, etc. Enfin, vous voyez, donc c'est ce genre de choses. C'est d'abord aussi de la liturgie. D'ailleurs, c'est toujours très orthodoxe aujourd'hui. Les orthodoxes font assez peu beaucoup moins de théologie. Ils sont beaucoup plus. C'est la liturgie qui est le cœur de la transmission de la foi, en fait. C'est la façon dont on le vit, dont on prie, etc., qui va être le cœur. Enfin, nous, on est occidentaux, on rationalise beaucoup. Et les orthodoxes visent d'abord les choses dans la liturgie et transmettent la théologie dans la liturgie.
Un seul baptême. Quels sont les baptêmes qui sont...
Alors, ça, c'est la question de la réitération du baptême ou pas. C'était une question dans ce temps-là. Comment ?
C'était le donatisme.
Alors, il y avait notamment le donatisme à l'époque de saint Augustin, mais là, c'est un peu postérieur, la crise donatiste est de cette époque-là, elle est contemporaine, mais le règlement de la question donatiste est postérieur, c'est 410, le concile, le synode qui règle la question, parce qu'effectivement, donc, les donatistes rebaptisaient, ils disaient, si vous avez été baptisé chez les catholiques, vous n'êtes pas vraiment baptisé, donc on vous rebaptise. Comment ? Alors actuellement, bah, c'est toujours un peu la question. Justement, bah, justement les orthodoxes souvent rebaptisent les catholiques, par exemple. La plupart des orthodoxes rebaptisent les catholiques. Nous, on ne rebaptise pas les orthodoxes, on ne rebaptise pas les protestants. Ça, enfin, ça dépend desquels protestants, parce que des fois, il y a des trucs, parce que même, il y a des protestants un peu dans tout. Enfin, voilà. Mais on ne rebaptise pas les luthériens ou les calvinistes, par exemple. Parce qu'on considère qu'il n'y a qu'un seul baptême, on le considère dans ce sens-là. Les évangélistes, je pense que ça dépend des cas, parce qu'il devait y avoir autant d'évangélistes que de chapelles évangéliques.
En Afrique, pour sauter le catéchuménat, ils allaient chez les évangélistes, ensuite ils passaient chez
les catéchuménats. Oui, mais après du coup, il fallait les confirmer, les eucharisties aussi, donc ça justifiait peut-être un catéchuménat aussi. C'est vrai que le catéchuménat est très long, notamment en Afrique, je crois qu'ils sont beaucoup plus rigoureux que nous. Donc un seul baptême, c'est aussi l'idée, je pense, derrière ça, l'idée du baptême de Jean-Baptiste et du baptême du Christ, qui sont aussi à l'origine, enfin dans les questions à l'origine. Voilà, enfin il y a ces différentes choses là. Après il y a la question du pédobaptisme. Est-ce qu'on baptise les enfants? C'est aussi la question de Saint-Augustin. C'est un débat à l'époque. Saint-Augustin va prendre position. Cette question, on peut baptiser les enfants et c'est bien de les baptiser, etc. Donc, à l'époque, on baptise surtout les adultes. En tout cas, on ne peut pas réitérer le baptême, ça c'est sûr. Et c'est le baptême du Christ qui nous sauve. Bon, je pense qu'il y a ça derrière ça. Ouais.
Petite question, au moment où l'évêque de Milan il dit à l'empereur, tu étais un laïc comme les autres, est-ce que l'empereur il a encore eu un lien avec le divin à cette époque-là? Dans le sens où il y a... Où...
Oui, alors...
Et si c'est le cas, vu qu'on est sur du christianisme et plus un culte païen, comment ça se conjugue?
Alors, c'est encore dans les périodes de séparation, effectivement. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'exactement, mais je crois que c'est après, par exemple, qu'est abandonné le titre de Pontifex Maximus, ce qui est un titre de prêtre païen de Rome. Et l'empereur était Pontifex Maximus. Et je pense que c'est... je ne sais plus à quelle époque c'est, mais en tout cas, c'est dans ces années-là, en gros, qu'on l'a... Ouais, c'est peut-être Gratien qui l'a abandonné. Théodose va être des grands acteurs de la christianisation de l'Empire. Justement, c'est lui qui va fermer les temples païens, les écoles païennes, c'est lui qui va interdire les Jeux Olympiques, qui va condamner l'homosexualité, etc. Donc c'est, il va beaucoup, c'est la fin du paganisme, c'est beaucoup Théodose. C'est, vous savez, c'est là que dont l'on date l'un des saccages de la bibliothèque d'Alexandrie qui était dans le temple de Sérapis. Donc c'est à partir de Théodose, c'est vraiment très, très, très christianisé. Il va y avoir cette grande docilité aussi de Théodose vis-à-vis bah, justement de Saint-Ambroise. Donc il y a cet épisode-là dont je vous parlais. Il y a aussi un autre épisode où il y a une émeute à Thessalonique et il va réprimer ça dans le sang. Et du coup, Ambroise va lui imposer une pénitence publique. Dire bah, toi empereur tu as péché gravement, tu as été trop lourd dans la façon de réprimer cette émeute et donc tu feras pénitence publique et donc il a été l'empereur d'Orient et d'Occident, le dernier grand empereur qui se met en habit de pénitent pendant 3 mois, un truc comme ça, privé d'entrer dans le cœur, il devait rester dans le narthex, un truc comme ça. Enfin, donc c'était quelque chose d'assez étonnant et un grand renversement, effectivement, par rapport à un siècle plus tôt. Voilà. Théodose... donc c'est vraiment la fin du paganisme à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment le coup de grâce sur le paganisme institutionnel, on va dire. Parce que c'est resté dans les campagnes très longtemps, mais... puis ça reste dans le cœur de l'homme, très fortement. Mais c'est un peu la fin.
Je me demandais aussi, par rapport au rapport entre le père et le fils, qu'est-ce qui permet de dire que le père et le fils sont parfaitement égaux, puis c'est vraiment le fait que, par exemple, le fils ne veut pas, ouais. Ne veut pas connaître...
Alors, effectivement, ça c'est une grosse question, c'est que dans les évangiles, du coup, on va distinguer ce qui est propre à Jésus-Christ, à Fils de Dieu en tant qu'homme, et au Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu. Du coup, il y a des moments où il est fatigué, des moments où il pleure, des moments où il ne sait pas. Eh bien, ça, on attribue ça du coup à l'humanité du Fils. Et puis, les miracles, la mission divine, etc., on va l'attribuer justement au Fils de Dieu. Donc, on va distinguer en fait ces choses-là. Dans l'évangile, voilà, ce qui est propre à Dieu, effectivement. Donc c'était une bonne question, parce qu'effectivement, les Ariens disaient, vous ne pouvez pas dire qu'il est fils de Dieu, regardez, il est fatigué. Donc il n'est pas vraiment Dieu. Je veux dire, voilà. Et ce qui nous ouvre d'ailleurs, merci pour cette excellente transition, parce que du coup, ce qui nous ouvre aux questions qui vont venir ensuite à Éphèse et Chalcédoine, qui après le règlement de la question trinitaire, en fait, vont être des questions christologiques. Parce qu'on va dire, d'accord, très bien, Jésus-Christ, fils de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, etc. Mais concrètement, comment ça marche? Comment Dieu et homme peuvent marcher ensemble? Pourquoi il y a des moments justement où il est fatigué, il ne sait pas, alors que des moments où il sait, il fait des miracles. Pourquoi il... Enfin voilà, donc plein de trucs comme ça. Et en fait, effectivement, ça va être un peu successif à ça. Donc il va y avoir une paix de l'Église quand même globale. Hein, il va y avoir des petits trucs, on va continuer à se disputer, normal. Hein. C'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait Saint-François de Sales. Donc on va continuer à se disputer, mais il va y avoir de nouveau des grosses crises. Donc le concile suivant, donc c'est Éphèse, c'est en 431. Donc il y a eu quelques crises, ça a commencé avant, mais c'est donc des questions christologiques, justement, qui vont venir à ce moment-là. Donc la question trinitaire, globalement, elle est réglée. Après, ce qui va s'ouvrir sur pas mal de temps, parce que ça va durer, ça va avoir plusieurs conséquences, ça va être des questions christologiques, c'est comment Jésus-Christ est-il si le Fils de Dieu, comment ça marche. Très bien. Eh bien, magnifique. Bon dimanche à vous.
Merci. J'ai une petite question.
Je les arrête, je...
Oui.
Si on est baptisé... Si on est baptisé.